Chers amis, chers camarades, les habitants de Saint-Étienne ont le triste privilège de vivre dans une des villes les plus endettées de ce pays. Dès son élection, en mars 2008, la majorité municipale actuelle, dirigée par les socialistes, a pris la mesure du problème. Laissée par la droite, près de 70% des emprunts réalisés par la majorité de droite précédente étaient des emprunts dits toxiques. Ils étaient basés sur des constructions financières acrobatiques de celles qui ont fleuri à l'époque des surprimes. On se souvient qu'une des particularités de ces prêts, destinés d'abord à l'immobilier, était le taux d'intérêt très faible au début. Ils grimpèrent les taux usuraires quelques années après. Cet édifice s'est effondré avec la faillite de la banque Lehman Brothers. À la suite, éclatait une crise financière dont nous subissons aujourd'hui encore les conséquences. L'un de ces prêts, accordé par la Deutsche Bank et la ville de Saint-Étienne, au montant de 20 millions d'euros, a vu son taux passer de 4,3% à 24%. L'actualité a mis en avant le rôle de Dexia, cette banque franco-allemande belge, numéro 1 mondial des prêts aux collectivités locales. Elle a été sauvée de la faillite en octobre par des subventions décidées en urgence, soit 6,4 milliards d'euros versés par les États français et belges. Et Dexia, bien que détenue en majorité par des entités étatiques ou semi-étatiques des deux pays, suit bien les règles des grandes banques privées. Celles qui sont l'ossature de ce qu'on appelle pudiquement les marchés financiers. La première règle, pas de cadeau aux emprunteurs. Ainsi, la ville de Saint-Étienne, si elle veut sortir d'un prêt de 20 millions d'euros accordé par Dexia, doit verser 10 millions d'euros. Nous avons donc sous les yeux la duperie des propos de tous ceux, gouvernants d'aujourd'hui et peut-être de demain, commentateurs plus ou moins originaux de ces gens qui n'ont qu'une formule à la bouche, il faut rembourser la dette. Eh bien non, les habitants de Saint-Étienne n'ont aucune raison de se sentir responsables, non seulement des remboursements des prêts toxiques de Dexia et autres de la banque, mais de toutes les dettes contractées par l'État français pour sortir ses propres banques de la faillite. Pour ma part, je n'habite pas Saint-Étienne, mais Saint-Chamond. J'ai commencé assez tôt ma carrière professionnelle dans la plus grosse entreprise de cette ville, la CAFL, devenue Creusot-Loire en 1970 et propriété de richissime baron. J'ai eu l'honneur, honneur un peu douteux, de recevoir des fiches de paie qui ont changé de locaux presque une dizaine de fois au cours de mes 42 années de présence. En 1985, après le dépôt du bilan de Creusot-Loire, le baron Rompin revendait à l'État les actifs du groupe et plaçait son argent dans des activités plus lucratives que la sidérurgie en crise. C'est une des caractéristiques de ces changements d'employeurs. Chaque fois, les vendeurs ne se retrouvaient pas sur la paille, mais il était courant que ce soit les travailleurs qui perdaient leur emploi à aucun temps. Les nombreux plans de restructuration et donc les suppressions d'emplois ont été largement financés par les fonds publics. Trop caractéristique de ces ventes était que nous, les salariés, nous n'avions qu'à des explications bien plus précises sur les raisons de ces changements. Les capitalistes n'ont de secret que pour les principaux intéressés, les travailleurs. Et dans les luttes à venir, il sera nécessaire d'inscrire dans les revendications le contrôle des salariés sur le compte des entreprises. Personne n'était assuré que les nouveaux patrons allaient le rester longtemps. Le dernier n'a pas échappé à la règle. Il s'agit de Siemens. Ce trust, basé en Allemagne, mais qui a des installations dans le monde entier, réalise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros et un bénéfice net sur l'exercice 2010-2011 de 6 millions d'euros. Il a acheté les actifs de mon employeur précédent dans le cadre d'une OPA où les actionnaires Viatech ont largement trouvé leur compte, mais pas les travailleurs. Dans le lot, il y avait le site de Saint-Chamond, essentiellement des bureaux d'études, et celui de Savigneux, au nord de Saint-Étienne, avec quelques bureaux et ateliers. À un moment, il y avait près de 400 personnes sur le site de Saint-Chamond, soit environ 650 sur les deux sites de l'AIMT. Plus des prestataires de services, des sous-traitants et des intérimaires. On nous a annoncé un plan de structuration en août de 2009 à Siemens-Saint-Chamond. Pendant plusieurs mois, une lutte déterminée a eu lieu pour s'opposer à la fermeture du site, au licenciement et aux mutations forcées. Face à la détermination du personnel, cadre et non-cadre réunis, le groupe a dû reculer du côté des primes de licenciement et les primes de mutation, mais pas sur les 270 licenciements. Siemens avait pourtant les moyens de garantir tous les emplois en partageant le travail, quitte à baisser le temps de travail, mais avec garantie des salaires, bien sûr. Presque en même temps qu'à Siemens, deux autres groupes, Akers, à Fraisse et Babylon et Saint-Croix, alors annoncé en 2009 la fermeture de leur site légérien et le licenciement de tous les travailleurs. Ces trois groupes ont supprimé depuis 2009 un millier d'emplois, sans même parler des sous-traitants. Depuis, d'autres entreprises de la Loire ont aussi licencié leurs salariés qui n'ont même pas eu droit à quelque avantage financier. C'est ainsi, les patrons de la Chambre de commerce et d'industrie font une opération porte ouverte soi-disant pour montrer leur dynamisme. Et leur campagne de communication ne parle pas des vagues de licenciements qu'a connu le département et des licenciés en situation précaire qui cherchent vainement un emploi. Et dans les entreprises encore ouvertes, ce sont souvent le gel des salaires depuis des années, mais aussi la dégradation des conditions de travail. Par exemple, l'accident du 25 juin à l'entreprise Valdi à Fougères, où l'explosion d'un four a soufflé la totalité de l'entreprise et surtout a fait de mort. Cette entreprise avait déjà défrayé plusieurs fois la chronique des accidents du travail. Un comité de soutien s'est constitué pour soutenir les familles, pour connaître la vérité et pour que les deux morts soient reconnus comme victimes de l'accident du travail. En effet, une fois leurs armes, leur arme de crocodile essuyée et les discours de circonstances oubliés, les patrons, dans le cas d'accident du travail, ne se gênent pas pour faire porter aux victimes la responsabilité de leur mort, de leurs blessures. Comme ils le font aussi pour les maladies professionnelles, ils essayent de s'éloigner pour payer le minimum. Ici aussi, les patrons et ceux qui les servent cessaient à l'occasion la répression antisyndicale. Récemment, le mardi 27 septembre, 5 militants CGT de Rouen ont été condamnés à 2000 euros d'amende. Leur crime, avoir tagué sur la sous-préfecture pendant un mouvement de la caisse casse des retraites de l'automne dernier, quelques phrases peu amènes à propos du député local. La condamnation a même été inscrite à leur casier judiciaire, ce qui peut être lourd de conséquences pour ces militants, tous fonctionnaires. Depuis plusieurs mois, une solidarité importante s'est exprimée pour le relax. Le gouvernement s'est attaqué à nos retraites et tous les jours, nous payons pour la crise du capitalisme. Et ceux qui tentent de s'opposer à ces attaques sont traînés devant les tribunaux et condamnés. C'est inacceptable. Parler de la manifestation des salariés de la santé du secteur privé non lucratif, jeudi matin 6 octobre, devant le centre de congrès à Lyon, où se tenait le congrès de la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne. Les manifestants venaient protester contre la casse des conventions collectives du secteur sanitaire, social et médico-social. Mais alors que leur manifestation était tout à fait pacifique, les CRS qui protégeaient le centre du congrès envoyaient des gaz lacrymogènes. Dans la bousculade qui s'en est suivie, trois manifestants stéphanoises, marchant sur une grille qui a cédé, ont fait une chute de 3 mètres. Deux sont dans un état grave. Les trois militants travaillaient à la clinique mutualiste de Saint-Étienne. La plus gravement blessée, Valérie Chirouze, secrétaire de la CGT de la clinique. Dans tous les secteurs, publics et privés, on essaie de revenir sur les acquis des travailleurs. Mais face à nos protestations, le mépris et les gaz lacrymogènes, c'est tout ce que le gouvernement a à leur répondre. Comme dans tous les autres départements, Dans la Loire, le logement et le coût des loyers sont des préoccupations permanentes des familles populaires. Étant membre du conseil d'administration de l'OPA de Saint-Chamondier, je touche de près les difficultés de ces familles populaires. Dans nos villes, l'habitat insalubre est encore présent. Et malgré cela, le budget consacré au logement social se réduit. Ce sont moins de réhabilitations ou alors des hausses importantes des loyers. Ce sont moins de constructions de nouvelles. Le 1er octobre, une cérémonie marquant la fin du chantier de réhabilitation de Poussin a eu lieu à Saint-Chamond. C'est un des plus gros chantiers de ces dernières années. Cette réhabilitation de 12 077 logements et des immeubles a été payée au prix fort par les locataires, avec une hausse de 50% sur le loyer. L'État avait annoncé une subvention de seulement 485 000 euros sur un budget de 40 millions d'euros. Cette promesse n'a même pas été tenue, car cette participation dérisoire n'a pas été complètement versée au final. Les APL, calculées lors de la consultation promise pour soi-disant atténuer cette hausse des loyers, n'a pas été au rendez-vous ou a été minorée dans la réalité, car là aussi, c'est l'austérité gouvernementale. L'État subventionne peu les réhabilitations. Il n'a pas oublié de ponctionner en 2011 900 000 euros à l'OPAC de Saint-Chamondier, soit 150 euros par locataire pour financer d'autres OPAC. C'est déshabiller les uns pour mal habiller les autres. Autant d'argent qui ne servira pas ici pour payer les travaux d'entretien et réhabilitation. Ce sera aussi des retards pour certains projets ou leur annulation pure et simple. Alors oui, les travailleurs de notre région, comme les autres, qui constituent le monde du travail, le monde de celles de ceux qui n'exploitent personne, qui produisent toutes les richesses et qui pour le moment reçoivent plus de coûts qu'ils peuvent en rendre. Mais cette situation n'est pas une fatalité. La force de la classe ouvrière est immense. C'est mise en œuvre de façon coordonnée et consciente, par des luttes qui s'en prennent à la domination du capital sur le travail. Nous, militants lutte ouvrière, nous ne sommes pas en état de déclencher des luttes ensemble. C'est la pression même des exigences des possédants qui ne manquera pas de déclencher ce salutaire coup de colère. Les travailleurs n'ont pas d'autre choix.